Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir Ariel Sion, responsable de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah, pour évoquer ce lieu essentiel de savoir et de transmission. Bonsoir Ariel.
Bonsoir Sandrine.
Merci d'avoir accepté notre invitation, comme le veut la tradition. Quelques mots pour vous présenter, ça sera très rapide. Vous êtes responsable de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah à Paris depuis plusieurs années. Et vous êtes également journaliste et j'ai eu la chance d'être interviewée à plusieurs reprises dans votre émission.
Alors ça c'est un passé, au passé, la deuxième partie est au passé pour le moment, c'est-à-dire oui, pendant quelques temps j'ai fait de la radio et puis j'ai eu le plaisir aussi d'écrire pour vous et avec vous dans un journal juif, voilà.
Alors on inverse les rôles, l'intervieweur interviewé et la première question qui s'impose, en fait il y en a deux. Qu'est-ce que ça signifie d'être responsable de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah et puis depuis quand vous travaillez dans ce lieu, dans cette institution?
Alors je travaille au Mémorial de la Shoah depuis une vingtaine d'années, pas bientôt 20 ans révolus. Dans ce lieu qui avait été rénové, refondé pour en 2005 au moment où je suis entrée au Mémorial de la Shoah. Ce que ça signifie d'être responsable de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah, c'est déjà beaucoup de travail. C'est aussi le privilège de travailler dans une institution qui a pour vocation de répandre du savoir sur cet événement qu'est la Shoah, mais pas uniquement sur cela, mais sur ces contextes et sur d'autres aspects que cette mémoire de la Shoah. Mais le cœur, c'est vraiment la mémoire de la Shoah et la signification, les significations que cet événement peut avoir au passé, mais aussi ce que ça peut vouloir dire encore aujourd'hui qu'évoquer cette mémoire.
Alors si on sait maintenant que le Mémorial de la Shoah est un lieu de mémoire, c'est un lieu qu'on visite, on s'y recueille, on sait moins qu'il abrite une bibliothèque d'une grande richesse importante pour les chercheurs mais aussi les familles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qu'est concrètement cette bibliothèque ?
Alors, cette bibliothèque, elle fait partie donc du musée du Mémorial de la Shoah. Elle fait partie d'un ensemble qui s'appelle le Centre de documentation du Mémorial de la Shoah.
Alors, je vous interromps parce que j'avais une question à ce sujet. Parfois, on fait la différence d'ailleurs entre le Centre de documentation juive contemporaine et le Mémorial de la Shoah, peut-être même la bibliothèque et ses archives. Comment vous différenciez ces différents éléments?
Alors, on va peut-être commencer par l'histoire, à la racine du Mémorial de la Shoah. Il y avait le Mémorial du martyr juif inconnu, ça c'est... Et puis, il y avait aussi la racine vitale et vibrante qu'était le Centre de documentation juive contemporaine qui avait été constitué par Isaac Schneerson et d'autres personnes à la fin de la guerre et qui longtemps s'est appelé Centre de documentation juive contemporaine et souvent on disait je vais au CDJC, je vais au Centre de documentation juive contemporaine. La refondation du Mémorial de la Shoah, le Centre de documentation juive contemporaine, à un moment, est devenu le Centre de documentation du Mémorial de la Shoah, du Musée Mémorial de la Shoah, de la Fondation Mémorial de la Shoah. Voilà. C'est aujourd'hui ce que nous sommes. Au sein de ce centre de documentation, il y a trois parties. Une partie photothèque. Quand je dis photothèque, c'est un peu réducteur puisqu'il y a aussi une partie audiovisuelle faisant partie de l'ensemble photothèque. Il y a un service d'archives et d'objets qui est un service majeur de ce centre de documentation. Et puis, il y a une bibliothèque, c'est-à-dire un ensemble de documents liés à ce qu'on appelle une bibliothèque. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Ça fonctionne de manière très pratique pour celui qui vient consulter. Il y a une salle de consultation qui est commune, qu'on peut appeler salle de lecture si on veut, mais qui est une salle de consultation dans laquelle on peut consulter plusieurs types de documents différents, ce qui peut permettre une recherche parfois plus complète de documentaires plus complètes quand on vient faire une recherche, qu'il s'agisse d'une recherche privée ou d'une recherche à but universitaire ou d'une recherche par curiosité, d'une recherche sur son histoire familiale. Voilà, on peut consulter plusieurs sortes de documents. Si ça vous intéresse, je peux vous dire quel type de documents on peut venir consulter. Mais je sais que vous avez déjà été notre lectrice. Donc,
Oui, c'est vrai, je l'avoue. La plupart de mes recherches commencent à la bibliothèque du Mémorial de la Shoah et ses archives, et puis à l'Alliance israélite universelle. Quand on est chercheur et qu'on travaille en études juives, c'est vraiment le point de passage obligé. Et c'est bien aujourd'hui d'en parler parce que vous allez nous expliquer que la bibliothèque, c'est pas seulement des livres, c'est bien plus que ça.
Alors, ce sont des livres. Je ne saurais pas dire que c'est bien plus que ça parce que c'est déjà beaucoup.
Oui.
Et des ouvrages. La salle de lecture, c'est une salle où on peut faire vraiment une recherche complète. C'est-à-dire que vous venez, par exemple, vous pouvez venir, je vous ai vu, vous venez, vous avez une idée d'une recherche, un questionnement. Ça, c'est une recherche qui, pour vous, était une recherche universitaire. Mais vous cherchez des documents, alors vous savez qu'il y a telle fiche sur soit un déporté, soit un résistant, enfin, des informations sur un résistant. Vous savez qu'il existe des archives. Vous allez regarder ces archives, puis après, vous allez vouloir contextualiser ce que vous voyez dans les archives. Donc, vous allez pouvoir commander des ouvrages qui peuvent documenter, je ne sais pas, à l'univers culturel duquel vient la personne sur laquelle vous recherchez. Et puis parfois, il y a un documentaire qui a été fait qui peut être ou un film ou un témoignage qui est filmé, auquel vous pouvez accéder à travers ce qui vous est offert en salle de lecture. Alors cette salle de lecture, elle apparaît un peu vide par rapport à ce qu'elle était il y a des décennies, puisque c'était là qu'était à l'origine la bibliothèque, avec des tas de livres dans tous les sens, et enfin bien rangés, mais beaucoup de livres. Donc ça donnait, quand on entrait là, ça donnait une atmosphère extrêmement chaleureuse. Aujourd'hui, c'est plus une salle de consultation, parce que de toute façon, aujourd'hui, nous n'aurions pas la place de mettre la quantité énorme de documents que nous avons, ne serait-ce que les documents qui s'appellent des livres et qui feraient déborder de tous les côtés cette salle où nous accueillons tout le monde. Nous essayons parfois de donner des conseils quand les gens veulent bien nous demander de leur donner des conseils, veulent bien que nous avons un peu de temps pour le faire. Mais voilà, c'est une salle qui est accessible et c'est une salle de consultation. Et vous dites, la bibliothèque, c'est plus que des livres. Ça serait déjà bien.
Oui, parce qu'il y a des journaux, des périodiques.
Ouais. Ah, plus que des livres. Oui, il y a toutes sortes de documents de la bibliothèque. La bibliothèque collecte essentiellement des ouvrages. Et nous avons une belle collection de tapuscrits, qui sont des choses très particulières que les gens nous laissent avec parfois beaucoup d'émotions. Qui sont des écrits que les gens font. Alors, ça peut être l'histoire informelle d'une famille où les gens sont venus, ont fait des recherches, parfois au mémorial, parfois ailleurs, parfois ils racontent leur histoire. Et les gens racontent leur histoire familiale, par exemple, hein, c'est pour la plupart des tapuscrits, ou le parcours de leurs ancêtres, ou parfois même des gens qui écrivent des romans ou des choses qui ne sont pas encore publiées et qui n'ont peut-être pas vocation à être publiées, mais qui ont vocation à être consultées et qui parfois renseignent de manière très personnelle, très émouvante aussi, la vie et le parcours de personnes dans une histoire plus ou moins récente, plus ou moins longue et plus ou moins bien écrite. Mais ce n'est pas si important, c'est quand même une mine d'informations parce qu'on est à une période où les gens aiment beaucoup se raconter ce qu'ils sont, comme beaucoup de gens aussi sont très déracinés. du point de vue de leur d'un certain point de vue, ils ont besoin de mettre une histoire dans leur vie antérieure, dans la vie de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs ancêtres, surtout quand cette histoire est extrêmement traumatique, comme peut l'être l'immigration ou la Shoah.
Alors, vous relevez un point qui est quand même essentiel, cette idée de contextualiser le passé du peuple juif, parce que quand on fait une recherche, ou historique, ou familiale, ou plus générale, on a besoin de comprendre la vie d'avant, les langues qui étaient parlées éventuellement, les mondes perdus, les parcours d'exil, et la bibliothèque est là pour ça. Elle nous donne des références pour ouvrir et contextualiser le sujet sur lequel on travaille.
Oui, ce qui m'a beaucoup étonnée depuis des années, pas simplement depuis que je travaille au Mémorial de la Shoah, mais depuis longtemps, mais là, il y a quand même une accélération, je trouve, c'est que les gens ont un vide de contexte. C'est-à-dire que des fois, les gens viennent faire des recherches, et ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont absolument aucune idée de... pas d'où commencent les choses, mais où s'enracinent les choses. Donc, ce qui leur pose des problèmes, j'allais dire des problèmes d'espace. Ils savent plus où ils sont dans l'espace. Ils sont perdus un peu dans un vide. Et des fois, il suffit de lire un livre pour commencer à combler un vide, ou en tout cas pour donner un peu de relief à quelque chose qui semble des sables mouvants. J'ai souhaité participer à cette émission aussi parce que une fois, j'entendais un récit d'un parcours d'une personne qui avait cherché des choses sur des enfants déportés pendant la guerre, déportés de France. Et j'étais étonnée de voir que les professeurs qui les accompagnaient, et parmi eux un professeur qui était plus âgé, donc d'une époque où les gens tiraient l'essentiel de ce qu'ils disaient des livres et de la lecture. Dire qu'elle ne pouvait pas savoir d'où venait la famille de l'enfant et ce qui était l'histoire de sa communauté d'origine, qui était une communauté des pays de l'Est. Et je me suis dit, mais c'est pas possible ce n'est pas possible de faire une recherche à base simplement de documents administratifs et puis de ne pas aller voir ce qu'est l'histoire de telle ou telle communauté. En Europe orientale, par exemple, ça pourrait être ailleurs, ça aurait pu être dans les Balkans ou ailleurs encore. Et je me suis dit que vraiment des fois, il faut juste faire un effort. Il faut juste quand on est dans une salle de lecture et quand on a cette possibilité qu'offre le Mémorial de la Shoah de pouvoir contextualiser et donner aux archives encore plus de sens que le sens premier qu'on peut y voir. Ça serait de se pencher et de rechercher dans le catalogue de la bibliothèque ou bien de se faire aider par les documentalistes en salle pour dire avez-vous des ouvrages, avez-vous ceci ou cela sur telle et telle communauté. Et des fois, ça permet en effet de donner un certain relief parce que souvent aussi les gens, avec le poids de l'assimilation, ignorent beaucoup de choses de leur passé. Et des fois, ils viennent et ils ont l'impression que leur famille est un cas unique. Chaque famille est unique, certes, mais que les communautés desquelles ils viennent n'étaient pas composées qu'une seule personne ou que d'une seule famille. C'est-à-dire que si vous venez de Lemberg, de Lvov, Lviv, Lemberg, y a une histoire. C'est une ville qui a une histoire. Et vos parents n'arrivent pas en France par hasard. Ils arrivent parce que ils survivent par exemple à certains événements ils arrivent aussi ici parce qu'ils s'arrêtent dans leur immigration. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville dont l'Ukraine est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui? Mais il faut s'y pencher. C'est une histoire qui est beaucoup plus longue. Et puis il y a aussi, me semble-t-il, pour contextualiser les choses, toutes sortes de professionnels aussi qui viennent au qui viennent alors, dans la
alors,
salle
je,
de lecture.
Alors, je vous interromps justement. Vous avez depuis 20 ans maintenant l'habitude de voir quel est le profil des lectrices et des lecteurs qui fréquentent la bibliothèque aujourd'hui. Des chercheurs, des familles, des étudiants, des enseignants, des survivants, peut-être encore, qui viennent du monde entier. Comment ça fonctionne?
Un peu tout ce que vous avez dit, c'est un peu tous les gens, tous ces gens-là. C'est-à-dire que cet endroit ne connaît aucune restriction pour le public qui veut y entrer. Ça peut être le tout venant, du plus savant du plus académique. Au plus savant et non académique, ça peut être monsieur et madame tout le monde, de n'importe quelle nationalité, de n'importe quelle origine, qui va a envie d'utiliser nos fonds pour enrichir une recherche. Il y a beaucoup de gens qui arrivent parce qu'ils cherchent un parent déporté, ou d'autres qui veulent faire de la généalogie. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le public des familles. Alors les familles, c'est, vous le savez Sandrine, les familles de déportés, c'est tout le monde. Il peut y avoir des familles des familles juives venant de partout dans la diaspora juive. Aujourd'hui, ils peuvent être toutes sortes de gens. Des juifs, des gens qui ont des origines juives, des gens qui ont, voilà. Et puis, il peut y avoir d'autres gens qui font aussi des recherches sur tel et tel sujet. Et puis, il y a des professionnels aussi qui font des films, peut-être pas des films, des films de documentaires, des films de fiction. Je pense à certaines personnes et certains exemples. Alors tous ces gens ont besoin de documentation. Il y a des élèves aussi qui ont besoin de faire des devoirs, des choses scolaires sur la Shoah. Des gens, voilà, toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de restriction de conditions pour, on n'a pas obligé d'appartenir à une institution. Et les gens viennent en effet du monde entier parce que dans cet endroit, on met à disposition un certain nombre de documents qui ne se trouvent que là, mais aussi parce que on a beaucoup de chance, on est au centre de Paris.
Je vais vous poser une question dont je connais la réponse. Financièrement, tout le monde peut venir consulter des livres sans payer un droit d'entrée?
Non, c'est gratuit.
Voilà.
La consultation est gratuite. Bon, évidemment, il y a certaines reproductions qui sont payantes. Et il y a des conditions de reproduction qui peuvent être parfois pour les gens qui peuvent sembler une restriction. Mais enfin, on ne fait pas n'importe quoi avec des documents d'archives, ni même avec des livres. Mais la consultation est en effet gratuite. Et ça, c'est très important. La consultation est gratuite et se fait sur place. Alors, la consultation sur place d'ouvrages peut-être sembler pénalisante qu'on a envie de les emprunter, mais ça permet aussi à tout le monde de pouvoir les consulter.
C'est assez exceptionnel, la gratuité du lieu.
Oui, oui. Et de pouvoir tout consulter gratuitement. En même temps, de manière diverse, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder quelque chose sur quelqu'un que vous recherchez, par exemple sur le convoi, le premier convoi, eh bien vous pouvez regarder. Il existe aussi un documentaire sur le premier convoi, etc., etc. Mmh. Donc vous avez comme ça plein de documents à votre disposition, n'est-ce pas? Vous cherchez un ancêtre qui a été déporté. On parlait de Lemberg, mais ça pourrait être d'un autre endroit. Eh bien, vous voulez, puisque c'est un lieu aussi auquel vous êtes intéressé, des choses sur Salonique, vous pouvez avoir aussi des livres et puis voir peut-être d'autres témoignages. Il y a quand même une possibilité et de le faire, et tout ça gratuitement. Presque tous les jours, sauf samedi. Et ça, c'est aussi un grand avantage, c'est-à-dire qu'on peut réserver des documents à lire ou à visionner le dimanche. On peut le choisir pour le dimanche, il faut le réserver à l'avance, parce que le dimanche, il n'y a qu'une permanence.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que, en fait, les visites se préparent. Il y a des outils numériques qui sont performants, on peut voir les livres que l'on va visualiser ou qu'on va consulter. On ne vient pas comme ça, enfin, on évite de venir comme ça.
On peut venir comme ça, oui. On peut venir comme ça parce qu'il y a... Il y a un personnel qui est quand même chargé d'accueil. Je vous dis, le dimanche, c'est une permanence. C'est encore autre chose. Mais on peut réserver... Enfin, en effet, on peut réserver des documents. Des livres, on peut réserver aussi visualiser des archives qui sont numérisées. On peut aussi venir consulter des livres, des archives papier, qui n'ont pas été numérisées. Mais bien sûr que c'est mieux de préparer sa venue. Mais on peut venir sur place parce que sur place on peut vous aider à fouiller dans les outils de recherche, et puis aussi nous mettons plus de documents à disposition que ceux qui se trouvent sur l'interface internet du Mémorial de la Shoah. Il y a plus de choses à trouver quand on vient et qu'on fait des recherches que sur internet, mais on peut s'inscrire à distance comme lecteur et se faire réserver des documents. Moi, je conseille aux gens de venir d'abord, sauf peut-être pour s'inscrire, parce qu'il y a parfois le contact humain fait que quand même c'est plus facile d'être aidé, de commencer sa recherche comme ça. Mais on peut le faire aussi. On peut aussi commencer par un contact moins direct et moins personnel avec les gens. Et puis après la consultation se fait. Alors au début, quand les gens cherchent des documents, ils ont l'impression qu'ils sont perdus, qu'ils vont rien trouver, etc. Puis petit à petit, ils nagent et en général, ils trouvent beaucoup plus de choses que ce qu'ils ont imaginé trouver au départ. Et des fois, c'est un peu différent entre une recherche, quelle qu'elle soit, quand on la commence, et quand on arrive à un moment au milieu de sa recherche, parce que souvent, et c'est un peu différent de l'interrogation qu'on s'est posée ou de la réponse qu'on imaginait attendre au début de sa recherche.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Ariel Sion, responsable de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah, qui nous parle de ce lieu essentiel. On n'a pas parlé du fonctionnement de cette bibliothèque. Vous avez votre rôle de responsable. Quelles sont les équipes qui vous entourent? Qui commande les livres? Est-ce qu'il y a régulièrement de nouvelles acquisitions? Comment ça fonctionne?
Il y a beaucoup d'acquisitions. On est très peu à la bibliothèque. On est un personnel permanent très peu nombreux et un personnel aussi que nous partageons avec les autres services, hein, c'est-à-dire que les documentalistes chargés d'accueil en salle de lecture sont normalement chargés aussi de renseigner sur la partie livre, périodique, etc. L'acquisition de documents, elle est importante quand on a beaucoup de sous. Quand on a des sous, on a moyennement des sous. Ça dépend des années. Ça dépend aussi des dons que nous font les gens. On a aussi pour politique, nous sommes des accumulateurs. Enfin, je veux dire, les bibliothèques patrimoniales, mais aussi ce centre d'archives, acquièrent beaucoup de documents. On fait un peu comme des c'est une sorte de réserve. Il y a des collections qui nous sont données. Il y a quelque temps, un historien important du nazisme, et Yann Kershaw nous a cédé sa bibliothèque qu'on n'a pas encore exploitée, mais qu'on espère exploiter un jour prochain. Et puis nous acquérons des ouvrages en français, en anglais, essentiellement en anglais et en allemand pour les langues étrangères, qui sont les langues les plus accessibles à la majorité des chercheurs. Et des gens régulièrement viennent nous apporter leurs livres qu'on reçoit en général volontiers. C'est pas toujours simple de traiter tout ça parce que c'est beaucoup. Il faut avoir, et que ça demande du temps, ça demande des personnes, donc c'est pas toujours très simple, mais on essaye quand même de mettre à disposition ce qu'on peut, et la bibliothèque s'enrichit chaque année. Je suis arrivée, il y avait 25 000 monographies, aujourd'hui il y en a plus de 50 000 qui sont à disposition du public.
Est-ce qu'il y a des partenariats, des collaborations avec d'autres institutions, d'autres bibliothèques à l'étranger?
Alors, je n'ai pas de faute d'avoir assez de gens pour y travailler. Il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler de partenariat. Cependant, là, en ce moment, on est sur un projet que je ne vais pas dévoiler de rendre la bibliothèque un peu plus visible. C'est une bibliothèque qui est appréciée des chercheurs à l'étranger et des chercheurs étrangers qui viennent à Paris. Ça accompagne bien leur recherche, qu'ils cherchent des documents en français, anglais, allemand, etc. Ça accompagne leur recherche. Et donc là, on a un projet de rendre la bibliothèque plus visible en lien avec d'autres lieux de mémoire en Europe.
La période est compliquée, pas seulement depuis le 7 octobre, des remises en cause de la Shoah, et on ne va pas épiloguer parce qu'on sait d'où ça vient et qui instille ce genre d'idées. Mais est-ce que votre bibliothèque peut être vue comme une sorte de résistance par la connaissance ?
Oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de savoir sans lecture. Il n'y a pas de... S'il n'y a pas de narration de la Shoah, après, les reliques que sont les archives, les photos, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, ça risque de perdre son sens à un moment. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, lire, c'est une résistance. Aujourd'hui aussi, les bibliothèques connaissent... Je ne veux pas dire des... Je ne dirais pas des difficultés. Des difficultés, les bibliothèques en ont toujours connu, mais aujourd'hui, on pense, enfin, il y a une certaine diffusion d'un certain mode d'appréhension de l'information qui voudrait dire, oh, on peut se contenter de quelque chose de plus light, on peut se contenter il suffit de voir un film, mais ce qu'on ignore, c'est que beaucoup de films qui sont faits sur la Shoah ou sur des sujets connexes sont faits parce qu'il y a beaucoup de lectures en amont. Donc je pense qu'en effet il y a une résistance. Je pense qu'aujourd'hui le savoir est une résistance à l'antisémitisme. Un livre, c'est quelque chose de... C'est une résistance aussi à la désinformation. C'est-à-dire que vous prenez un livre et vous êtes responsable devant ce livre. Quand vous lisez un livre, c'est un livre. Le livre, c'est quelque chose qui est fini, qui raconte quelque chose. Et vous avez votre libre arbitre pour savoir comment vous allez évaluer ce que vous lisez. La diversité aussi d'une bibliothèque comme celle du Mémorial de la Shoah, mais d'autres bibliothèques avec des fonds, par exemple, je pense à des bibliothèques avec des fonds juifs, avec des fonds sur l'histoire en général, contiennent des ouvrages très divers. Nous avons des ouvrages, en effet, sur l'histoire du peuple juif. Nous avons des ouvrages, nous avons des témoignages qui nous racontent comment, depuis la fin de la guerre, mais, et même avant, des gens ont écrit. Et aussi après la guerre, comment les gens ont publié pour raconter leur expérience dans les camps de concentration, par exemple. Et puis nous avons aussi des ouvrages qui sont des ouvrages, j'allais dire, du cœur de certains aspects de l'enfer, qui sont des ouvrages. Nous avons des ouvrages nazis, et les gens peuvent venir se faire une idée de ce que c'est, de ce qu'est la bêtise aussi. La bêtise de l'antisémitisme, de ce qu'est la désinformation, et peut-être penser, en lisant ce qui a été écrit il y a plus de 80 ans, ou pendant la guerre, peuvent se dire qu'aujourd'hui aussi, un certain nombre de choses qui circulent, c'est du déjà vu, et qu'on racontait déjà toutes sortes d'idioties avant et pendant la guerre. Et ça, je pense que c'est important, parce que les personnes aujourd'hui qui se donnent la peine de franchir la porte de lieux tels que le mémorial de la Shoah peuvent avoir à leur disposition toute une documentation qui leur montre que la désinformation n'est pas simplement aujourd'hui, ce n'est pas seulement une histoire de réseaux sociaux, mais c'était aussi une histoire de diffusion, quel que soit le support qui diffuse cela. Et que malheureusement, pour les antisémites, ils ne sont pas des grands inventeurs, ils ne sont pas très créatifs, puisqu'on répète et on ressasse toujours les mêmes choses.
s'il y avait un message essentiel à faire passer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom pour parler, résumer votre bibliothèque ou simplement leur donner envie de pousser la porte et de venir consulter des ouvrages, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais qu'ils sont les bienvenus dans notre salle de consultation. Je leur dirais que c'est bien s'ils viennent. Que c'est un lieu où il y a beaucoup de réconfort à apprendre, il y a beaucoup de réconfort à apprendre par la lecture, parce que c'est quelque chose qui construit, et si le mémorial de la Shoah se veut un rempart contre l'antisémitisme, il y a des fondations à ce rempart et à ce qui est à l'intérieur de ce rempart. Et c'est le savoir qui n'est pas forcément un savoir tonitruant, mais qui est celui de l'acquisition de connaissances par la lecture et la recherche.
Merci beaucoup, Ariel.
Merci, Sandrine.
De ce décryptage. Donc, on peut donner l'adresse de la bibliothèque du Mémorial de la Shoah, qui est accessible à toutes et à tous. C'est au 17 rue Geoffroy Lagné dans le Marais, à Paris. Donc, pas très loin d'un quartier agréable et puis de l'hôtel de ville. Et tout le monde peut s'y rendre sans difficulté.
Tous les jours.
Et même le dimanche.
Tous les jours, sauf le samedi, voilà.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous, Sandrine.